Bonjour, bienvenue à vous toutes et tous, et merci d'être venus à cette conférence sur la science chrétienne, qui sera faite par Alexandre Fischer. Alexandre a toujours eu à cœur d'aider les autres à surmonter les injustices. Ce désir l'a d'abord conduit à embrasser une carrière d'avocat international. Mais au bout de quelques années, Alexandre Fischer a senti qu'il manquait une dimension spirituelle à son travail. Un jour, alors qu'il travaillait sur un cas de harcèlement au travail, sa cliente a éclaté en sanglots au téléphone. Il lui a assuré qu'il parviendrait à lui obtenir une indemnisation importante. Mais bien sûr, cette sorte de réconfort n'avait pas le pouvoir de faire cesser les pleurs. Ce qui était en cause, c'était sa colère et sa détresse morale face à l'humiliation et au mauvais traitement qu'elle avait subi. Mais en tant qu'avocat, il lui était impossible d'y apporter une réponse. Sachant que la science chrétienne permettait de résoudre les problèmes par la prière, il s'est rendu compte que cela aurait pu aider sa cliente à faire face à la situation, à calmer son angoisse et à retrouver la sérénité. La science chrétienne devint alors plus proche et plus chère à son cœur. Son premier pas en direction de cette cause fut de servir en tant que juriste dans le comité de publication de l'Église mère à Boston, États-Unis. Quelques années plus tard, avant de renoncer à sa carrière d'avocat et après avoir suivi le cours primaire de la science chrétienne, il a d'abord été nommé comité de publication pour la France. Cela l'a amené à publier des articles dans des médias nationaux et à réaliser plusieurs interviews positives concernant la science chrétienne. C'est en 2011 qu'il est devenu praticien de la science chrétienne, afin d'aider les gens par la prière, pour qu'ils perçoivent mieux la nature toute aimante de Dieu et qu'ils ressentent cet amour divin dans leur existence. Il vit actuellement près de Paris avec son épouse et de leurs deux filles. Il est également membre du Conseil des conférences de la science chrétienne et c'est à ce titre qu'il vient vous exposer son sujet. Merci Alexandre.
Merci Monique. Rebonjour à tout le monde. Le micro fonctionne, donc ça c'est bien. Alors, nous sommes... J'ai une devinette pour commencer. C'était fait exprès, c'était pour nous rappeler d'éteindre les portables. Le mien est éteint, je crois.
Parfait.
Donc j'ai une devinette. Nous sommes au Salon du Livre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un... Bravo. Vous aviez déjà entendu la conférence. Oui, c'est ça. Alors, ce livre, c'est « Science et santé avec la clé des Écritures ». Ça, c'est le titre. L'auteur, c'est Mary Baker Eddy. Et quel est l'intérêt de ce livre ? J'y vois au moins trois intérêts. Le premier point, c'est que c'est un livre qui nous permet d'apprivoiser la paix, qui nous permet d'apprivoiser la sérénité, de faire que la paix, la sérénité sont un peu comme un chien au pied du lit qu'on a en permanence. Et corrélativement, les idées de ce livre nous permettent de chasser les intrus, et je dirais les intrus, c'est la peur, l'inquiétude, la crainte. Donc ça c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que ce livre nous permet de révéler toutes sortes de solutions, ou nous permet de nous donner des pistes pour trouver des solutions aux difficultés qu'on peut rencontrer. Que ce soit des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, ce livre nous donne des pistes pour trouver des solutions. C'est véritablement un livre de solutions. Alors ça ne dit pas quoi faire, mais ça permet de nous mettre sur le chemin pour trouver nos propres solutions. Et dernier point, ce livre nous donne un sens de Dieu qui a du sens. Je dirais un sens de Dieu qui est logique, compréhensible. Donc ça, c'est ce que je vois comme l'intérêt du livre. Ça nous permet de chasser la crainte, trouver davantage de paix. Ça nous donne des pistes pour trouver des solutions aux difficultés qu'on rencontre. Et ça affine notre sens de Dieu. Et comme on va le voir, c'est un livre qui est très, très pratique. Très pratique. Et il n'y a rien de plus pratique qu'une guérison. Donc, je vais vous raconter la guérison d'une lectrice de ce livre, qui, en appliquant les idées de ce livre, a trouvé une solution, je dirais presque inespérée, à une situation qui était assez compliquée. Alors, cette lectrice, je la connais bien, c'est ma maman. Et ce qui s'est passé, la chose suivante. Le jour de ma naissance, les médecins sont venus trouver mes parents pour dire que le nourrisson, devant vous aujourd'hui, un peu moins nourrisson, crachait du sang, ce qui inquiétait les médecins. Et ils ont fait donc différents tests. Ils sont aperçus que c'était pas le sang du nourrisson, c'était le sang venait d'un autre endroit. Et en faisant différents tests, ils sont aperçus que j'avais une perforation de l'estomac. Donc les médecins ont pris, le corps médical a pris l'affaire en main et a demandé que je sois opéré d'urgence. Alors je pouvais pas être opéré dans l'hôpital où je me trouvais, qui n'avait pas l'équipement spécialisé, et donc j'ai été transféré dans un autre hôpital. Alors, on peut imaginer la peur, l'inquiétude des parents face à une situation comme ça, mais mes parents étaient et sont lecteurs de ce livre, et donc ils se sont mis à prier. Et on va voir un petit peu ce qu'est le sens du mot prier, mais globalement, ils étaient à l'écoute d'idées qui leur venaient pour les rassurer. Il y avait une véritable attente, au milieu d'une situation qui paraissait tout à fait désespérée, une attente de trouver la paix, une attente de pouvoir avoir un sens d'harmonie, là où le bon sens dirait, on ne peut pas avoir un sens de paix maintenant, on aura un sens de paix plus tard, si l'enfant s'en sort, si ça se passe bien, là vous serez paisible. Mais non, leur lecture leur avait appris que ce sens de paix peut naître au milieu même de la difficulté. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ma maman, donc la lectrice, raconte qu'elle a fait, je dirais, des efforts pour se détourner de toutes ces pensées qui lui venaient, que je n'ai pas besoin de décrire, qui lui parlaient de ce qui allait se passer, ce qui allait pas se passer, de pourquoi, toutes ces pensées noires. Et elle a fait un effort pour se détourner de ces pensées, pour se plonger davantage dans ce qu'elle comprenait de ce qu'est Dieu. Et à ce stade-là, elle explique qu'elle avait un sens de Dieu en tant qu'amour universel. Pas un Dieu d'un clocher ou d'un petit groupe de gens, mais vraiment la source de l'amour, et je dirais même la source de la vie. Et elle explique que ce sens de Dieu, ce sens de vie, est devenu progressivement plus important dans ses pensées que globalement toutes les pensées noires qu'elle avait. Et dans cette situation-là, elle s'est sentie complètement paisible, au point même qu'elle a pu, dormir en fait. Elle a pu passer une nuit à dormir, alors que la situation aurait pu tenir éveillé plus d'une personne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, les médecins sont venus voir mon père au second hôpital et lui ont dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on a refait des tests et on ne comprend pas parce que les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc à ce stade, ils n'étaient pas vraiment joyeux parce qu'il y avait vraiment un point d'interrogation pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Donc mes parents étaient bien sûr joyeux et pour être parfaitement honnête, pour eux, c'était pas une coïncidence, c'était pas un mauvais diagnostic parce que la perforation, elle est là ou elle est pas là. C'était pas un miracle inexpliqué. Leur lecture de ce livre, leur discussion avec d'autres lecteurs avait montré que ce type de guérison est quelque chose de possible. Puis la guérison était permanente. Après ça, les médecins m'ont gardé un peu plus longtemps à l'hôpital. On demandait à ce que d'autres tests médicaux soient faits dans les mois qui suivaient. Et puis, finalement, tout est rentré dans l'ordre et le problème était entièrement terminé. Alors la question, c'est une belle guérison, bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que c'était pas un miracle, et c'est vrai, dans le sens que un miracle, c'est parfois un mot très commode, qu'on étiquette sur un phénomène qu'on comprend pas, mais là, c'est l'inverse. Ce livre nous explique comment est-ce qu'on peut ressentir cette paix et comment cette paix amène la solution. Et je dirais que si on essaye un petit peu de résumer les grands principes, je dirais que ça tourne autour de trois grandes idées. Alors, je ne vous fais pas l'économie de lire le livre, mais vu que vous êtes venu assis pour écouter, au moins je peux vous donner un petit peu les grands axes, mais vous serez beaucoup plus nourri en feuilletant le livre vous-même. Alors, le premier grand axe, c'est véritablement une meilleure compréhension de ce qu'est Dieu. Et j'hésite même à prononcer le mot Dieu, parce que c'est pas un mot qu'on utilise souvent, et quand on regarde les informations, quand on vit dans la vie de tous les jours, c'est un mot qui semble être totalement absent, qui semble être relégué à la sphère privée, mais c'est un mot pourtant qui a du sens, mais qui a plein de sens différents pour plein de gens différents. Et je dirais, à la lecture de ce livre, le sens du mot Dieu, c'est le sens le plus naturel, à mon sens, qu'on peut avoir. Dieu, c'est synonyme de la vie. La vie qui, encore une fois, qui appartient pas à un petit club de personnes, c'est la vie, c'est universel. La Bible parle de Dieu comme esprit. Et esprit, ça permet de parler de la substance de cette vie qui est pas matérielle. Dieu est pas moléculaire, c'est le tout infini. On peut parler de Dieu comme le principe. En fait, c'est un petit peu comme si ce livre donnait un meilleur sens de Dieu par petites touches, un petit peu comme les pointillistes ou certaines peintures, ou par petites touches, on va avoir un sens plus clair de ce qu'est Dieu. Et donc, quand on dit Dieu est principe, c'est l'idée de constance, que cette vie, cet amour est toujours présent, toujours accessible. Un petit peu comme si on imaginait que on ne connaît pas les mathématiques, et qu'on vivait sans connaître les mathématiques. Le principe des mathématiques est présent, même si moi je ne connais pas les mathématiques, et à tout moment je peux découvrir ce principe, commencer à l'appliquer et commencer à bénéficier dans ma vie de la beauté que les mathématiques donnent en termes d'organisation et autres. Donc c'est ça l'idée d'un Dieu principe, et véritablement universel. Encore une fois, c'est pas une question de clocher, c'est aussi universel que les mathématiques finalement. Donc ça, c'est le sens de Dieu par petites touches. Et vous verrez, si vous ouvrez le livre, vous pourrez ajouter plein d'autres touches. Et la Bible aussi donne toutes sortes de synonymes. Si on prend le psaume 23, par exemple, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». L'idée de Dieu comme un berger, alors c'est pas un monsieur avec des moutons, c'est vraiment l'idée d'être sécurisé, de se sentir protégé, guidé. Ça, c'est une autre petite touche qu'on peut ajouter à l'idée de ce divin universel. Donc ça, c'est le premier grand axe. L'autre axe qui nous touche directement, ça répond à la question finalement, qui est-ce que nous sommes? Qui est-ce que nous sommes véritablement? Ça parle de l'homme avec un grand H. Et là, on découvre que notre nature profonde, au-delà de l'apparence, au-delà de l'image que renvoie le miroir, c'est une nature qui est profondément spirituelle. Et j'ai envie de dire profondément spirituelle et profondément innocente. Parce que je ne sais pas vous, mais au moins pour moi, on est souvent tenté de penser qu'on est coupable de toutes sortes de choses. Et je dirais en particulier lorsqu'on fait face à une difficulté. Quand tout va bien, généralement, ça va, on se pose pas la question, mais quand tout d'un coup on fait face à une difficulté, on peut être tenté de penser, mince, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que j'ai pensé de travers? On a un sens de, je dirais presque instantané de culpabilité, qui est véritablement contre nature. Notre nature, elle est innocente, spirituelle, pure, harmonieuse. Et on pourrait continuer. Le troisième point qui va lier les deux autres points, c'est la nature de la réalité. Alors vous dites, mais pourquoi on parle de la réalité maintenant? Ça va faire un lien, parce que quand je dis notre nature profonde est spirituelle, notre nature profonde est forte, est confiante, est harmonieuse, si j'utilise ce mot-là. Je pense qu'on est tous d'accord intellectuellement, et je pense même qu'on pourrait dire, mais ça a l'air chouette, j'aimerais bien que ça soit le cas, mais malheureusement, c'est pas ma vie de tous les jours, c'est pas tout à fait ça, c'est pas aussi rose que cette jolie description. Et ben c'est là qu'on a besoin de parler de ce qu'est la réalité. Qu'est-ce qu'est la réalité? Et parler de ce qu'est la réalité, ça revient à se demander qu'est-ce qui est vrai dans mon expérience. Alors si vous voyez pas tout à fait où je veux en venir, on peut renvoyer à un philosophe qui s'appelle René Descartes et qui s'est posé cette même question. Il se disait mais qu'est-ce qui est réel? Il s'arrêtait pas à la vie de tous les jours, mais ça je vois ça, mais il dit mais au-delà de ça, est-ce que les cinq sens, c'est une question très audacieuse quand même quand on y pense, est-ce que les cinq sens me renvoient une image fidèle de la réalité? Et Descartes répond non. Avec des exemples tout simples. Il dit, regardez le phénomène de perspective. Quand une personne est devant moi, elle fait 1m80 et elle part à 500 mètres, elle est toute petite. Donc, mentalement, je corrige la différence de taille, mais les yeux me trompent. Regardez le soleil. Toutes sortes d'exemples. Et donc, du coup, Descartes, ce philosophe de pointe, conclut qu'il n'y a pas vraiment de certitude dans ce que nous donne les cinq sens comme perception du monde. Que c'est pas une certitude. Si j'en finis avec Descartes, il dit la seule chose dont je suis certain, c'est que je pense. Et ça nous donne la fameuse phrase qu'on connaît tous. Je pense donc je suis. Ça, j'en suis sûr. Le reste, c'est pas certain. Et j'ai trouvé très intéressant sur cette question de lire un article qui a été publié dans un magazine médical anglais qui s'appelle The Lancet, qui est une référence en matière de neurologie. J'étais intéressé de voir qu'il recitait ce même questionnement de Descartes et il posait la question, je dirais en termes modernes, et je lis, est-ce que nous percevons le monde qui nous entoure tel qu'il est, ou alors est-ce que le monde n'est que la copie interne d'une perception générée dans notre cerveau? Le monde matériel n'est-il rien d'autre qu'un rêve? Alors j'entendais un astrophysicien parler de ce sujet l'année dernière et il disait à juste titre, on peut vivre sa vie sans se poser ces questions fondamentales. On va acheter son pain, on va au travail, la vie tourne. Mais dès qu'on creuse un peu, et notamment on est parfois obligé de creuser quand on fait face à une difficulté, là, la question commence à avoir du sens. Et là, c'est le troisième point fondamental. Et globalement, si je le résume, c'est l'idée que finalement, on vit son état de conscience. Notre état de conscience, notre mental, ce qu'on accepte comme pensée. Alors, c'est pas un café, c'est gentiment Monique qui apporte un petit peu d'eau. Merci beaucoup. L'idée fondamentale, c'est ça, c'est que globalement, notre état de conscience, notre mental, ce qu'on accepte comme vrai à propos de notre monde, ce qui se passe au niveau de notre esprit, de l'entendement, va se manifester, s'exprimer dans notre vie de tous les jours, qui a un lien entre ce qu'on vit et ce qu'on pense. Et si je fais un saut un petit peu en avant, on verra ça plus tard, mais ça explique comment la prière peut avoir un impact, parce que ce sens de méditation et de prise de conscience d'idées au niveau du mental, d'idées spirituelles, va avoir un impact dans notre vie quotidienne. Mais là, j'avance un petit peu, on va y revenir. Cette idée-là, on la retrouve dans la vie de tous les jours, dans les études qu'on peut lire régulièrement. Il y a deux études qui m'ont intéressé, qui illustrent cette idée que la dichotomie entre mes pensées et l'extérieur n'est pas si grande. La première, c'est une étude qu'on appelle d'effet placebo, qui a été publiée dans une revue américaine qui s'appelle le New England Journal of Medicine, qui est aussi une référence en matière de médecine, c'est pas une petite publication. Et dans cette étude, les médecins expliquent qu'un groupe d'hommes a été pris, c'est un groupe d'hommes qui avait un problème au genou, qui demandaient une opération chirurgicale. Ils avaient des douleurs et des problèmes pour marcher. Et le but de cette étude était de voir l'impact que l'attente de la chirurgie pouvait générer sur le corps. Donc très pratiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'un des groupes d'hommes a reçu la chirurgie, puis a été testé après pour voir comment ça allait, niveau douleur et autres. Et un autre groupe d'hommes, sans le savoir, à ce moment-là, c'était aléatoire, eux savaient que c'était possible, mais ne le savaient pas, sans le savoir, a eu un simulacre d'opération. Donc ils étaient sur le billard, on leur a mis une blouse bleue et ainsi de suite. Eux ne savaient pas, ils ont eu toute l'impression d'une opération chirurgicale, mais en pratique, ce que les chirurgiens ont fait, ils ont simplement procédé à une incision sur le genou, qu'ils ont refermé après, pour donner véritablement toute l'apparence d'une opération chirurgicale. Donc, quand je dis qu'ils ne le savaient pas, ils ont signé des papiers au départ disant que c'était possible, mais ils ne savaient pas si eux auraient la vraie opération ou l'opération fictive. Et la chose intéressante pour montrer à quel point le mental a un impact déjà sur notre corps, et on va le voir sur notre vie en général, eh bien, pendant toute une période qui a suivi l'opération, 6 mois, 1 an et plus, l'ensemble des hommes qui ont reçu la fausse opération et la vraie ont été testés, et ceux qui n'ont pas reçu l'opération, la fausse opération, marchaient aussi bien et donnaient des reports de aussi peu de douleur que ceux qui avaient été opérés, alors qu'il n'y avait pas eu d'opération. Donc ça illustre bien le fait que si la douleur est partie, si le genou allait mieux alors qu'il n'y a pas eu d'opération, d'où venait la source du bien-être? Eh bien, on voit bien que c'est ce qui se passait au niveau de leur attente de guérison. Mais je dirais le livre va un peu plus loin en disant que finalement, notre état de conscience, notre mental va impacter, oui bien sûr, notre corps, mais va au-delà, va aussi impacter toute notre expérience, tout ce qu'on vit. Et une expérience qui me parle beaucoup, c'est une expérience de physique quantique où les chercheurs ont constaté que un tout petit morceau de matière, un photon en particulier, se comportait de façon différente, avait un mouvement différent suivant que ce petit morceau de matière était observé ou non observé par le scientifique qui faisait l'opération. Alors, c'est très clair pour moi, parce que j'ai lu l'opération, c'est peut-être un petit peu abstrait. Si je donne l'exemple concret, lorsque la matière n'était pas observée, elle se comportait comme une vague, elle donnait des traces sur les relevés comme une vague, et par contre, quand les scientifiques mettaient un petit appareil pour mesurer le comportement de l'atome, il se comportait comme une particule, comme une espèce de bille. Donc les scientifiques ont constaté ça. Il y a plusieurs interprétations et l'une d'entre elles, c'est véritablement qu'au minimum, il y a un lien entre l'observation et la matière. Que notre fait de ce qu'on voit et ce qu'on expérimente, c'est lié. Si vous voulez lire cette expérience, ça s'appelle l'expérience des fentes de Jung, double fente de Jung. Et le constat, il est là. Ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Et Richard Feynman, qui était un prix Nobel de physique, sur cette expérience-là, a dit que c'était complètement incompréhensible par rapport au fonctionnement de la matière telle qu'on comprend dans la vie de tous les jours, pour les grosses choses. Par rapport au modèle newtonien des choses, c'était complètement incompréhensible. Donc ça se passe, on ne sait pas exactement pourquoi. Et pour moi, ce que je trouve intéressant dans mon étude de ce livre, c'est que ça montre le lien, encore une fois, entre ce qu'on perçoit comme notre monde, et notre monde semble être composé de matière. Et donc ce qu'on perçoit comme notre monde étant notre expérience, c'est de voir à quel point les deux sont totalement liés. Alors, on me demandait à l'entrée si j'avais écrit le livre. Alors non, je n'ai pas écrit le livre, j'étudie le livre. Le livre a été écrit par une dame qui s'appelle Mary Baker Eddy, qui est une dame qui a vécu fin 19e, début 20e, Et je dirais la particularité de cette dame, c'est que à une époque où, je dirais, la majorité des femmes n'étaient pas très libérées dans le bon sens du terme, elles étaient très enfermées à la maison, elle avait vraiment un esprit pour défier les conventions. Donc d'un point de vue, ça commençait d'un point de vue religieux. Elle était protestante, et à l'époque, la théologie d'un Dieu qui choisit certains, qui en laisse tomber d'autres, avait cours. Elle était absolument contre cette idée. Elle sentait déjà l'idée de l'universalité. Mais la deuxième idée, c'est qu'elle était vraiment, elle avait un esprit de pionnière. Elle aimait vraiment chercher, découvrir, comprendre. Et je dirais, sa vie lui a donné l'occasion de mettre en pratique cet esprit un peu pionnier, parce que elle a fait face à de nombreuses maladies personnelles que la médecine de l'époque ne pouvait pas guérir. Et donc, elle s'est mise à creuser, à chercher dans d'autres méthodes, l'hydrothérapie, l'homéopathie, toutes sortes de choses pour comprendre comment pouvoir guérir. Et je dirais, ce faisant, elle a mieux compris cette interaction entre le corps et l'esprit, et elle engrangeait de la connaissance pour l'amener jusqu'à une compréhension plus fine de ce qu'est Dieu, qui s'est passé à la suite d'un accident où beaucoup de son entourage pensait qu'elle se remettrait pas. Elle était inconsciente pendant un temps. Et là, elle va, je dirais, presque instinctivement prendre sa Bible pour prier, et très rapidement, elle va se trouver en rémission très rapide. Contrairement à ce que l'entourage pensait, elle va se remettre en 2-3 jours complètement. Et là, elle va sentir qu'elle a touché quelque chose. Elle va faire le lien entre cette prière, ce sens spirituel des choses, et sa rémission physique. Et donc, elle va tout mettre de côté pendant 2-3 ans pour juste creuser. Et si je prends un petit peu l'essence de ce qu'elle a trouvé, et qui est important parce que, je dirais, ce livre est complètement religieux, mais religieux dans le bon sens du terme. Et je dis dans le bon sens du terme, c'est parce qu'elle va s'apercevoir que le maître du religieux, véritablement, au moins dans le christianisme, c'est Jésus, et elle va s'apercevoir en lisant très attentivement la Bible que l'idée d'une foi aveugle, l'idée d'un credo qu'on doit suivre, l'idée d'une condamnation ne fait pas partie, au moins, de sa compréhension de l'enseignement de Jésus. Que véritablement, l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement qui est, je dirais, pratique spirituelle moderne, mais qui n'inclut pas l'idée de la prêtrise, qui n'inclut pas l'idée d'avoir un camarade au-dessus de nous, qui inclut simplement l'idée de toucher le divin de façon très concrète et très pratique. Et elle retrouve des phrases, par exemple, comme celle-là que j'ai notée tout à l'heure, qui est dans l'évangile de Jean, donc là c'est Jésus qui parle et qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui comprend ce que je dis, fera aussi les œuvres que je fais. » Alors, pour ceux qui lisent un peu la Bible, les œuvres de Jésus, c'est quoi? Ben, Jésus n'arrêtait pas de guérir les gens, de résoudre les problèmes. Et donc, cette phrase dit ce qu'elle dit, c'est assez fort. La phrase ne dit pas « venez me chercher, puis je vais guérir les gens ». Elle dit « mais si vous comprenez ce que je dis, si vous comprenez ce que je dis par rapport à la nature de Dieu, si vous comprenez ce sens d'universalité, alors naturellement, vous serez en mesure de faire l'expérience de la guérison ». Et si j'ajoute une petite graine de modernité sur la phrase, c'est que vous serez en mesure d'avoir un état de conscience qui change, et ce changement d'état de conscience aura un impact sur votre corps et sur votre vie. Et quand on creuse un petit peu l'histoire du christianisme, c'est vraiment, vraiment passionnant. En particulier, les auteurs des 2, 3, 4 premiers siècles du christianisme. Alors, on trouve des choses qui sont troublantes, qui ne nous plaisent pas forcément, l'idée de la condamnation et autres, mais il y avait beaucoup d'interprétations. Mais si on sait ce qu'on cherche et qu'on le cherche justement, eh bien on va s'apercevoir que pendant environ 300 ans après les premières paroles de Jésus, pour les gens, je dirais, comme vous et moi de l'époque, eh bien c'était absolument naturel d'être guéri, d'être guéri en s'appuyant sur cette compréhension de la spiritualité de Jésus. C'était absolument naturel d'être guéri, de résoudre des difficultés, de trouver la solution à des problèmes. Ça faisait partie intégrante de la pratique de cette spiritualité. Et puis vers le début du IVe siècle, on s'aperçoit que le corps doctrinal de l'Église, la doctrine devient très forte entre ce qu'il faut croire, ce qu'il faut pas croire, et ça devient un peu plus fort. Et corrélativement, la guérison n'est plus référencée. Peut-être qu'il y avait beaucoup de guérisons et qu'ils ont oublié d'en parler, je ne crois pas. C'est que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a, il y a très peu de guérisons. Et pour moi, c'est clair, parce que toute cette spiritualité, elle est liée sur notre relation intime à l'infini. Et c'est une relation unique qu'on a avec l'infini, avec Dieu, et qu'on découvre seul. Et c'est un chemin qu'on fait seul avec l'infini, et qu'on, même si notre voisin est très 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 spirituel, c'est quand même un chemin qu'on fait seul. Et c'est là, c'est le chemin qui nous amène à la paix. Et donc ça a pour moi du sens que ça commence à se perdre dès qu'on va commencer à imposer des codes, des normes. Il faut faire ça pour être un bon chrétien, il faut faire ci. Ah, s'il n'est pas chrétien, ça va pas. Donc elle découvre ça, que finalement, cette spiritualité était très libre, dans le sens de libre de la mainmise d'autres personnes. C'est qu'on a un lien à l'infini. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à vous parler de Mireille Bécuradi, je vous ai pas dit « Oh, c'était une fantastique guérisseuse, elle guérissait des tas de gens, puis elle a écrit un bouquin. » Mireille Bécuradi, elle était presque comme vous et moi au départ. Je dis presque parce qu'elle a une forme de pureté, d'honnêteté, mais elle va se trouver guérir beaucoup de gens après sa découverte. Quand elle va comprendre mieux cette spiritualité, eh bien, des gens vont lui présenter des cas, et qu'elle va guérir. Il y a toute une biographie d'ailleurs qui référence un peu tous les cas qu'elle a guéri. Et elle ne disait jamais « Ah, super, je peux me dorer mon grand ego ». Elle disait « Non, moi je peux rien faire ». Elle disait « C'est véritablement cette compréhension de notre nature divine, cette compréhension du spirituel qui permet de guérir ». Et donc elle a enseigné aux personnes autour d'elle à guérir, et c'est comme ça qu'elle a été amenée à rédiger son livre, qu'elle a constamment révisé dans le but de le rendre le plus clair possible. Et quand le temps à un moment est venu de mettre un nom sur sa découverte, au départ elle l'appelait la science morale, dans le sens de morale de pureté, et puis finalement elle appelait ça la science chrétienne, pour tout simplement dire bah c'est basé sur ce que disait Jésus, dans le sens le plus pur du terme, et c'est scientifique, pas tellement dans le sens actuel de microscope et de données mathématiques, mais c'est scientifique dans le sens, je dirais, dans le sens premier de la science, qui est la preuve d'une vérité. C'est-à-dire que elle n'a pas trouvé et découvert un livre de philosophie, c'était véritablement un livre qu'on peut mettre en pratique et qu'on peut prouver dans sa vie. Alors j'ai réfléchi à deux guérisons que je vais vous exposer en expliquant un peu comment j'avais prié en tant que lecteur du livre, comment j'ai prié à ce sujet. Ça va nous permettre de parler un petit peu de ce qu'est la prière et donner un peu des pistes pour montrer un peu, mais concrètement, comment ça peut marcher, sachant que, et la précision est importante, c'est que je ne suis qu'un lecteur parmi d'autres. C'est que quand on posait la question à Jésus et qu'on lui disait « Mais comment tu fais pour guérir ?», il disait « Mais ne répétez pas des vaines paroles. L'idée, c'est que c'est pas une formule qu'on va suivre. C'est pas, j'ai pas une formule magique ou un truc qu'on doit suivre. C'est vraiment, alors ça peut être un peu impressionnant au départ, mais c'est le chemin. C'est vraiment notre relation unique à ce livre, notre relation unique à cette spiritualité qui peut prendre une certaine forme aujourd'hui, qui peut être différente demain. Donc là, ce que je vais partager, c'est pas tant pour le reproduire, c'est plus pour vous montrer un peu le côté, je dirais, scientifique ou un petit peu méthodique, de voir un petit peu comment l'édifice fonctionne. Donc la première guérison dont je voulais vous parler, c'est une dame qui m'a appelé un jour en me disant que, d'une part, elle ne connaissait pas du tout ce bouquin, ni la science chrétienne, ni rien du tout, que c'était quelque chose de tout nouveau pour elle, que une connaissance lui en avait parlé, parce que dans son cas, m'expliquait-elle, elle avait été diagnostiquée quelques mois plus tôt d'un cancer du sein, Et elle me dit qu'elle a elle avait une démarche très, je dirais, bio. Elle voulait, elle dit, moi, je veux pas une chimiothérapie, je crois au truc naturel. Donc, elle avait une démarche comme ça. En toute honnêteté, elle me dit que pendant un temps, elle a dû se battre avec la peur de la mort. Enfin, l'idée de la mort était vraiment quelque chose qui la réveillait la nuit. Mais elle me disait que maintenant qu'elle se sentait beaucoup plus paisible. Et elle, il se trouve que cette connaissance lui a parlé de ce bouquin-là. Et donc, elle me disait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et l'autre précision, c'est que elle me disait qu'elle croyait pas en Dieu, mais qu'elle aimait les choses spirituelles. Le spirituel, ça l'intéressait. Donc, sur l'idée de pas croire en Dieu, je l'ai rassurée tout de suite, parce que je crois pas en Dieu non plus. Alors, ne faites pas « Ah, je vais expliquer. » Je ne crois pas en Dieu, mais pas plus que je crois que 2 et 2 font 4. C'est qu'on sait que 2 et 2 font 4, et que c'est pas l'histoire, c'est pas de croire en Dieu, c'est de mieux comprendre pour nous ce qu'est Dieu, en fait. Tout est compréhension, c'est pas croyance. Du coup, avec cette dame, j'ai pu jamais utiliser le mot de Dieu, parce que ça la gênait trop. Je crois qu'elle voyait un bonhomme barbu dans le ciel qui envoie le bien et le mal, et ça la gênait. Du coup, on parlait toujours de la source. Ça, ça lui parlait beaucoup. L'idée de la source de sa vie, la source de son être. L'idée qu'il y a une source plus grande qu'elle, ça, ça lui parlait beaucoup, la source. Donc on parlait de ça. Et donc, je dirais, mon travail a consisté en deux choses. C'est que, d'un premier aspect, je lui parlais, on échangeait des idées pour qu'elle comprenne davantage son lien à cette source. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, c'était moi, ma prière individuelle. Comment je priais, c'est ça dont je voudrais vous parler. Alors, il y a, pour moi, à l'heure actuelle, il y a quatre points importants quand je prie. Quand je prie, et généralement quand je prie, c'est quand je fais face à une difficulté, soit pour moi-même, soit pour quelqu'un d'autre. Et je dirais, ces quatre points importants, c'est presque un peu des cadrans, un peu des choses qu'on, comme un peu un pilote qui a des cadrans qui vérifient la jauge d'huile, qui vérifient l'altimètre. C'est un petit peu des choses que je vérifie pour être sûr que c'est bien au carré. Alors, comme vous allez le voir, c'est encore une fois, c'est pas un mantra, c'est pas quelque chose que je répète. Le premier cadran, c'est d'être absolument certain que il n'y a pas d'ego dans la prière. Que c'est pas, on fait face à une difficulté, c'est pas sur nos épaules, c'est pas à nous de dire, je vais prier ce truc-là. Si on repense à cette dame-là, l'idée c'était pas de dire, maintenant je vais guérir cette dame-là. C'est pas à nous de faire quelque chose. Et je dirais, je me sens très sécurisé par rapport à cette idée, dans le sens que le meilleur praticien de la science divine, le meilleur praticien de la guérison spirituelle à ce stade, c'est vraiment Jésus. Et quand on creuse et qu'on regarde ce que Jésus disait par rapport à la guérison, il disait, alors je ne vous reprends pas la Bible parce que je connais par cœur, c'est là, il disait, je ne peux rien faire de moi-même. Mais je dirais un petit peu comme le mathématicien qui face à un problème, je ne sais pas, pour créer un moteur, et puis il est bloqué sur son équation, à un moment, il met le bon chiffre, et donc tout fonctionne, mais tout fonctionne grâce aux mathématiques, c'est pas le monsieur, le mathématicien, qui fait fonctionner les choses, c'est plus grand que nous. Et donc quand on prie, je trouve toujours utile de mettre l'ego de côté. C'est pas le petit moi qui fait quoi que ce soit. On est toujours, à mon sens, dans une position de réception. De, pas d'émission de quelque chose, mais de réception d'une idée. De réception d'un sens de paix. De réception d'une idée qui nous parle et qui va nous faire un pas supplémentaire dans la bonne direction. Alors j'espère que c'est assez clair, parce que si certains d'entre vous n'ont jamais prié, ça peut paraître un peu abstrait, mais là, le plus clair que je peux dire, c'est ça. C'est qu'en tout cas, c'est jamais sur nos épaules. C'est pas à nous de prier. C'est toujours, on va recevoir quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, et là, ça, c'est important de le bien expliquer, parce que ça peut paraître presque contre-intuitif, c'est que le but de la prière, c'est pas de guérir cette femme. Alors oui, en pratique, elle va être guérie, bien sûr. En surface, on peut avoir le sentiment, et on pourrait même dire, je comprends pas l'histoire, la dame, elle est malade, tu pries, elle est plus malade. Oui, le but, c'était de guérir. Je dirais, en apparence, de très très loin. Mais profondément, quand on est là sur la chaise et qu'on doit prier, le deuxième cadrans que je regarde pour être sûr de bien faire voler l'avion, c'est le but de la prière, c'est jamais de guérir quoi que ce soit. Je dirais, comme on l'a vu par rapport à notre premier point, c'est toujours de recevoir une idée. On va être inspiré. Une idée va nous inspirer, donc on va plutôt recevoir. Mais l'idée, c'est plutôt de lâcher. C'est pas de corriger quelque chose, c'est de lâcher un sens effrayé des choses, un sens inquiet d'une situation. C'est vraiment, on est plus dans le fait de lâcher que d'essayer de corriger quelque chose. Et plus précisément, et ça va en lien avec le titre de cette petite présentation, qui est le discernement spirituel source de guérison, l'idée, ça va être véritablement d'aller au-delà de l'apparence pour planter, je dirais, ses pensées, sa perception dans le spirituel. Précisément, si je redisais ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette lectrice qui était ma maman avec ce nourrisson en difficulté, rappelez-vous, je disais, elle aurait pu se morfondre, se dire « mais moi, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais non, elle a vraiment fait un effort pour planter ses pensées dans le divin. Et je dis justement le divin parce que c'est pas une recette, donc je peux pas vous dire elle a dit cette phrase-là. Elle a vraiment, c'est vraiment quelque chose d'unique pour nous, mais l'idée c'est de détourner son regard du problème pour que finalement le problème quitte presque nos pensées et que notre sens de Dieu devienne plus important que le problème. Et c'est possible. Parce que là on est connu, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, même quand on fait face à une difficulté importante. Donc le premier point, c'est pas sur nos épaules. Le deuxième point, on n'est pas là pour utiliser la prière comme un super nouvel outil pour guérir une perforation de l'estomac ou tout problème. On est plutôt là pour lâcher et mieux comprendre Dieu, mieux comprendre la source, notre source, et mieux comprendre notre relation à cette source. Et vous verrez, pour moi, ça rend la tâche beaucoup plus aisée. Parce qu'au moins dans mon cas, à chaque fois que j'essayais de prier pour guérir un truc, il y a un sens de responsabilité qui vient. Enfin, ça n'a jamais rien donné. L'image qui me vient, c'est d'être un train sur de l'herbe. Alors, je m'active dans la cabine, mais le truc, il est sur l'herbe, ça bouge pas d'un poil. Alors que dès que on est dans le lâcher prise, on est juste dans mieux comprendre tout simplement notre relation à Dieu, sans petite idée derrière la tête. C'est même pas, je vais comprendre ma relation à Dieu, mais je fais ça parce que j'aimerais vraiment avoir ce problème qui est résolu. Non, c'est gratuit. Le but, c'est de vraiment lâcher. Et une façon dont Jésus illustre cette idée, par exemple, à un moment, on lui pose la question, on lui dit, mais comment on va faire pour manger demain? Qu'est-ce qu'on est inquiet de ci, inquiet de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et sa réponse, c'est, mais cherchez premièrement, donc ça c'est le terme biblique, le royaume et la justice de Dieu, en d'autres termes, cherchez Dieu d'abord, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et si je peux faire ce petit lien avec ce qu'on disait précédemment, ça a une logique parfaite, parce que si on vit notre état de conscience, si notre mental, ce qui se passe dans notre pensée face à une difficulté, je vais perdre mon emploi et j'ai plus d'argent, ça habite nos pensées. Tant que ça nous, je dirais, pourrit l'esprit, pardon de l'image, mais parfois c'est ce qu'on ressent, tant que c'est dans nos pensées, on semble le vivre. Dès que un sens divin des choses, ça fait un peu comme un soleil qui finalement chasse les nuages et que notre état de conscience devient beaucoup plus paisible, beaucoup plus posé, beaucoup plus certain du fait qu'on ne peut manquer de rien, que l'harmonie est présente, alors notre état de conscience n'est plus habité par ces nuages et naturellement, parce que on vit son état de conscience, et ben notre expérience, notre vie reflète cet état de pensée. Pour moi, c'est important de le savoir d'un point de vue mécanique. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on passe d'un état très apeuré, inquiet, à cet état-là. Mais on comprend pourquoi, quand Jésus dit, mais vous faites face à cette difficulté-là, c'est compliqué, il ne dit pas, mais priez Dieu qui va, et puis attendez qu'il se passe quelque chose. Il dit non, activement, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et on voit ce qui se passe au niveau des pensées. Si je cherche le royaume et la justice de Dieu, je ne suis pas en train de m'inquiéter de ce que je mangerai lundi prochain, est-ce que je peux payer le loyer, est-ce que j'aurai un job. On est vraiment dans autre chose mentalement. Et ce changement d'état de conscience va se refléter dans notre expérience. Et c'est ce qu'avec bonheur, des milliers de lecteurs de ce livre-là ont trouvé, que ce changement d'état de conscience, parfois de façon surprenante. Vous verrez, c'est intéressant, à la fin du livre, on en parlera un petit peu à la fin sur quelles sont les critiques du livre. L'auteur a ajouté une centaine de pages avec des commentaires de lecteurs, en fait. Et vous verrez que certains disent qu'ils ont été guéris d'un truc, mais ils s'y attendaient pas. Ils ont pris le bouquin, ils savaient même pas que ça allait les guérir, en fait. Non pas que le livre guérit de façon magique, on parle pas de ça, mais c'est que, en lisant, certaines idées les ont touchées, ont transformé leur état de conscience, ont vraiment, les ont fait réfléchir en disant, mais tiens, ça, j'avais jamais pensé à ça. Le gars qui se croyait coupable de tout, puis il dit, mais en fait, mince, c'est quand il pleut dehors, c'est pas ma faute, en fait. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et là, il se trouvait guéri de la situation par le fonctionnement qu'on a décrit et vu plusieurs fois, l'idée qu'on vit son état de conscience. Et je trouve que ça aide parce que quand on fait face à une difficulté et qu'elle cède rapidement, ben on est content. Mais quand parfois on fait face à une difficulté qui semble prendre plus de temps, eh ben on s'inquiète pas de ce qu'on voit dans notre expérience. On s'inquiète pas de ce qu'on voit dans notre vie. Si, je sais pas, on a un chef horrible, il est toujours aussi horrible qu'on a un problème physique, et qui semble toujours être là quand on prend notre douche, on s'inquiète pas de l'apparence, parce qu'on sait que c'est au niveau de notre état de conscience que ça se passe. On sait que c'est au niveau de notre état de conscience qu'on doit trouver ce sens de paix. On s'en inquiète pas plus que si je projette sur le mur une fissure dans une diapositive. Ça va, tout le monde sait ce que c'est une diapositive encore. Tu sais ce que c'est une diapositive? Ouais, mais c'est bon, parce qu'on ne discute beaucoup. Il va falloir que je renouvelle mes images. Et donc il y a la fracture sur le mur, la fissure sur le mur, mais tout le monde sait qu'on ne va pas aller mettre du mortier ou du truc sur le mur. Tout le monde voit que c'est bien au niveau du projecteur, c'est bien au niveau de nos pensées. Et donc je dirais, ça donne du baume au cœur quand on fait face à une difficulté qui malheureusement n'a pas cédé rapidement. On travaille un peu, on est patient, mais on reste à être vigilant sur ce qu'on accepte au niveau de notre état de conscience. Il y aurait beaucoup à dire sur ça, mais je veux avancer quand même. Donc en tout cas, le deuxième point, c'est ça. C'est qu'on n'est pas là pour corriger quelque chose, mais juste pour, si on fait simple, pour mieux comprendre notre relation à Dieu. Et d'ailleurs, dire ça, ça devient intéressant parce qu'on s'aperçoit que la prière ou ce sens divin, c'est un truc qu'on peut faire tout le temps. C'est pas que quand on a un gros pépin, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Avec l'effet corrélatif, c'est qu'on a une vie qui est plus paisible, plus équilibrée, plus harmonieuse. Ça fait pas de nous des moines, hein. Ça fait au contraire de nous des gens dans le monde, mais qui sont encore plus rayonnants, encore plus heureux. Le dernier point, mais on l'a vu un petit peu, c'est véritablement de laisser une idée spirituelle nous inspirer. Encore une fois, on n'est pas en train de générer l'idée divine qui va nous aider. C'est véritablement quand on lit, quand on prie, quand on est juste tout simplement très très calme et qu'on écoute, des idées vont nous venir. Et c'est ces idées-là auxquelles on s'accroche. Jésus disait ça comme ça quand il disait, mais vous connaîtrez la vérité. Donc la vérité, c'est l'idée juste par rapport à une situation. Et la vérité vous rendra libre. Donc encore une fois, c'est pas sur nos épaules. C'est qu'on découvre des choses. C'est pour ça que dans ce bouquin-là, on peut commencer au début du bouquin, au milieu ou à la fin. C'est qu'à un moment, il y a des idées qui vont vous toucher et qui vont vous faire avancer d'un pas. Il y a peut-être des idées qui vont vous aller trouver un peu agaçantes, ou vous dites, ah, ça, je suis pas d'accord. Mais c'est bien. L'idée, c'est que ça, elle le dit au début, elle dit, c'est l'heure des penseurs à sonner. On n'est pas là pour croire quoi que ce soit. On est là pour réfléchir et que ça nous touche. Alors, toutes ces explications, puis vous allez me dire, mais bon, et cette dame-là, qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame? Eh ben, cette dame, c'était très beau parce que, progressivement, elle a compris le truc assez rapidement, donc elle ne me parlera plus jamais des symptômes. Elle m'a fait une bonne description des symptômes lors du premier entretien, mais après elle ne me parlera plus de ça. Elle me parlera, fidèle à la méthode qu'on vient de décrire, elle me parlera uniquement de son sens de Dieu, et me disant que son sens de lien à la source est plus clair, c'est plus fort. Donc elle me parlera de ça, et donc c'est ça dont elle me parlait. Et un jour elle va me dire que la douleur a totalement disparu et qu'en prenant sa douche, il n'y avait plus rien. Elle était entièrement guérie physiquement. Alors elle était évidemment très heureuse par rapport à ça, mais pour être parfaitement honnête, son grand gain, ça a été ce lien à l'infini. Parce que on n'est pas. Si je donnais l'impression que c'est un super médicament, eh ben j'aurais tout raté. Parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que c'est de mieux comprendre notre relation à l'infini, de faire de nous des meilleures personnes, de faire encore plus le bien. Ça, c'est le vrai enjeu. Et en chemin, oui, quand on fait face à un mur très épais, eh bien oui, il y a une façon de passer à travers le mur. Donc ça, c'était la première guérison. Et cette dame-là, elle va très bien aujourd'hui. Puis bien sûr, elle applique ce qu'elle a appris dans le bouquin autour d'elle. Quand je lui ai parlé la dernière fois, elle me dit « Mais il y a plein de gens qui sont intéressés. » Donc elle voulait ouvrir un petit bureau pour aider les gens. Donc je n'ai pas parlé depuis, mais c'était ça son chemin. Alors, le deuxième exemple, que je trouve pour moi même encore plus intéressant que celui-là, c'est un exemple de problème au travail. Et donc là aussi, c'est une lectrice de ce livre-là et une amie. Et elle explique qu'elle venait de trouver... Donc c'est un peu ancien, c'est il y a 30 ans. Et vous verrez que c'est important, la durée est importante parce que l'environnement de la société était un peu différent il y a 30 ans. Parce que c'est un cas de harcèlement. Et elle explique qu'il y a 30 ans, elle venait de trouver un emploi. Elle était aux anges parce qu'elle travaillait pour une société de ressources humaines, une petite boîte de consultants, et qu'elle était rattachée directement au patron, et elle apprenait, il la coachait, elle apprenait beaucoup. Donc ça marchait bien. Mais progressivement, les choses ont commencé à la rendre un tout petit peu mal à l'aise. Pas des grandes choses, mais par exemple, c'était en deux, trois étapes. La première étape, c'était lors d'un déjeuner. Il y avait le chef, un collègue homme et elle, et les deux hommes faisaient des blagues salaces en sa présence, et précisément en se racontant l'un à l'autre ce que ça ferait de coucher avec la serveuse, avec la patronne, et ainsi de suite, alors qu'elle était à table. Donc, ok, c'était plutôt mal à l'aise, mais très bien. Donc elle savait pas trop ce qu'elle devait... Elle venait d'arriver, donc voilà. Et puis, quelques temps après, elle s'est aperçue que lors des réunions, son chef se mettait toujours à côté d'elle, et que dans chaque réunion, par hasard, son genou était toujours contre son genou. Donc elle se poussait, elle changeait de chaise. Et puis un peu plus tard, donc ça c'est sur une période de après qu'elle vienne d'arriver, il y avait un photocopieur dans l'allée centrale, raconte-t-elle. Et le photocopieur était dans une allée qui était un petit peu étroite, et le chef avait son bureau dans cette allée-là, et elle s'apercevait qu'encore par hasard, à chaque fois qu'elle était à la photocopieur, il se trouvait que le chef sortait de son bureau pour passer, se serrer un peu derrière elle pour passer, et ainsi de suite. Donc rien de plus que ce que je viens de décrire, mais c'était suffisant pour la rendre très 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 mal à l'aise, d'autant qu'il y a 30 ans, on ne parlait pas de ce genre de choses. Donc elle ne savait vraiment pas quoi faire, et là, classiquement, les suggestions qui lui venaient à l'esprit, c'était « mais qu'est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Que faire ?» et ainsi de suite. Mais, étant lectrice du bouquin, elle s'est dit « je peux faire quelque chose ». Donc là, elle a choisi de rien dire. Simplement, elle s'est mise à prier. Et j'espère, quand je dis prier maintenant, vous ne pensez pas qu'elle a pris une liste avec le truc. Vous voyez que c'était être à l'écoute. Donc quand elle a prié, l'idée qui lui venait, c'était vraiment de son innocence, de voir qu'elle était complètement innocente, qu'elle est son innocence, sa pureté, et ça a pris la forme d'un récit biblique qu'elle connaissait, qui est Daniel dans la fosse aux lions, ou dans l'histoire Daniel complètement innocent finit dans une fosse aux lions avec des lions autour de lui pour le manger, qui au final ne vont pas le manger. Et donc elle tirait la spiritualité de cette histoire pour vraiment prendre conscience de son innocence et de sa protection, qu'elle était absolument indestructible, qu'elle était innocente et qu'elle n'avait pas, qu'elle avait rien à craindre finalement. Et donc ce sens d'innocence, c'est ça qui l'a aidée. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc elle est repartie au travail. Rien n'a changé. Et quelques temps après, rediscussion au restaurant. Et là, le chef confie au collègue homme pendant le déjeuner, alors que mon ami était là, en lui disant, tu sais, moi, à chaque fois que je vois une femme, je me demande ce que ça ferait de coucher avec elle. Quand je suis dans le bus ou dans la rue, pour moi, la femme, c'est vraiment un objet sexuel. Et quand il finit sa phrase, il se tourne vers mon ami, et je dirais pardonnez-moi d'avance les mots, mais une stupidité candide, il dit, et toi, Suzanne, est-ce que c'est pareil pour les hommes? Est-ce que tu fais pareil avec les hommes? Donc elle était horrifiée, elle a dit non, bien sûr, et le déjeuner s'est terminé, mais là, quand elle est rentrée à la maison le soir, dans son train, elle s'est dit que c'était plus possible. C'est la goutte d'eau qui se débordait le vase. Elle aimait le travail, c'était intéressant, mais ça devenait complètement oppressant et elle n'en pouvait plus. Encore une fois, c'était à 30 ans, elle ne savait pas à qui en parler. Elle se demandait si elle devait confronter le boss, aller lui parler. Et finalement, non. Et elle s'est dit encore une fois qu'elle allait encore prier à nouveau. Et là, elle explique, et c'est intéressant parce que ça peut nous servir dans notre pratique de la prière, en fait. Elle s'est aperçue que de deux façons différentes. Elle s'est aperçue que son sens de l'innocence et de la pureté avait besoin d'être tout à fait élargi. Et pour dire ça de façon différente, c'est qu'elle s'est aperçue, elle ne le dit pas comme ça, mais si je retraduis ce qui s'est passé, c'est que quand elle avait prié la première fois, elle priait pour voir sa propre innocence. Donc, si je prends son état de conscience, on a quoi ? On a cet ami-là qui a peur de perdre son job, qui ne sait pas trop quoi faire par rapport à ce chef qui est un peu bizarre, qui prie, donc qui va voir sa propre innocence, mais dans cet état de conscience, se promène toujours l'idée d'un homme macho, prédateur, horrible, tout ce qu'on veut. Elle a quand même ça dans son état de conscience. Et donc, si on maintient, je dirais, cette idée négative dans notre état de conscience, on continue de le vivre. Non pas qu'on le génère, mais pour le clarifier, il faut que ça quitte l'état de conscience. Et donc là, la deuxième fois, ce qu'elle dit, elle dit qu'elle devait aller plus en profondeur dans son sens d'innocence, ça c'est pour reprendre ses mots, mais ça veut dire qu'elle devait voir l'innocence de cet homme-là. Ça ne veut pas dire être naïf, ça ne veut pas dire accepter les comportements qui sont tout à fait déplacés, ça veut dire aller au-delà de l'apparence, discerner spirituellement ce qui était vrai par rapport à cet homme, et de voir que sa nature était au-delà de l'apparence, il avait une nature pure, spirituelle, bonne, profonde, qui ne pouvait pas lui-même se couper du bien, qui ne pouvait pas avoir une vue tellement limitée de l'autre. Et donc, vous voyez ce qu'elle faisait, si j'emploie un terme qui n'est pas très beau, elle nettoyait son état de conscience, ou elle laissait un sens divin des choses, nettoyer son état de conscience jusqu'à ce qu'elle ait un grand sens de paix. Et là, c'est ce qu'elle raconte. C'est que quand elle a fait ça, tout d'un coup, elle n'en voulait plus. Elle n'était plus effrayée. La peur l'avait quittée. Elle n'avait plus peur ni de perdre son emploi, ni de lui. Elle avait un grand, grand sens de paix. Et pour moi, c'est ça le fruit premier de la prière. Ça nous donne un sens de paix, de quiétude qu'on veut le plus permanent possible. Et la chose intéressante, c'est que le lendemain au travail, son sens de tension et de stress avait complètement disparu, évidemment, c'était complètement paisible. Et la partie la plus intéressante, c'est est venue quelques semaines après, quand le chef est parti à un séminaire sur le sujet des ressources humaines, avec des différents speakers, différentes personnes qui faisaient des présentations sur le sujet des ressources humaines. Donc il est parti tout seul, et après il est rentré au bureau pour faire une présentation à toute l'équipe de ce qu'il avait appris. Donc il a fait cette présentation-là. Pendant la présentation, mon ami s'est aperçu que son chef faisait référence à de nombreuses femmes qui avaient donné des idées intéressantes. Ah, il y avait Madame Intel qui a parlé ça, ça va nous aider dans notre entreprise, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Mais lors de la pause, mon ami a entendu le chef parler à un autre collègue homme en disant qu'il avait été étonné, c'est qu'il avait écouté ses présentations, et lors d'une présentation avec une femme qu'il trouvait très intéressante, il s'est dit, mais mince, alors je réussis à entendre toutes les idées, et j'ai même pas pensé un seul instant que je voulais coucher avec elle. Et en disant, je me suis aperçu que penser, ça paraît tellement naïf, mais bon, pardon, mais penser, ça paraît tellement évident, mais que penser, avoir des pensées à propos des femmes en les limitant à un objet sexuel, ça le coupait d'idées de valeur. Et donc mon ami était exulté, et évidemment, tous les comportements inadaptés ont cessé après ça. C'est que c'était complètement terminé. Alors, encore une fois, je ne pense pas que c'était du hasard, je ne pense pas que le monsieur était tout d'un coup, il s'est aperçu, ah mais non, je l'ai changé du jour au lendemain. Et si je me permets de le dire maintenant, c'est parce que ce genre de choses se passe dans la vie de lecteurs comme vous et moi, hein, quand véritablement on arrive à ce point où on a ce sens de paix, de tranquillité face à un petit problème ou face à un truc qui semble nous manger de partout et qui dure depuis 40 ans, quand on trouve ce sens de paix, alors les choses bougent parce que, encore une fois, on vit son état de conscience. C'est que quand mon ami n'était plus accroché à « je suis pur, mais, oh, mais quel salaud celui-là », mais quand tout d'un coup, c'était « non, je suis pur, mais on est pur », cette pureté, elle est là, et que c'était vraiment plus, c'était pas des mots. C'est pour ça, c'est pas de la méthode, c'est pas de la pensée positive, ou c'est pas des mots qu'on répète, c'est quand tout d'un coup, c'était quelque chose qu'elle sentait comme étant profondément vrai, et ben le sens de paix était là, et ça c'est immanquable, et la guérison se fait. Et j'ai trouvé cet exemple très, très intéressant parce que ça illustre bien le fait que tout comme le physicien quantique s'aperçoit, mais mince, quand j'observe la particule là-bas, elle se comporte de façon différente. Et ben, quand notre état de conscience change, des choses que le monde dit, mais on peut pas, tu démissionnes, on peut rien changer. Et ben, on s'aperçoit qu'on a un impact sur notre vie, hein, sur notre vie. Et si on pousse un petit peu le raisonnement, je veux pas vous faire tourner la tête, mais est-ce que c'est tellement grand? Mais c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un impact pour les problèmes mondiaux ou autres, ou au moins on peut avoir une attitude positive. C'est quand on voit, je sais pas, la guerre en Syrie, plutôt que se morfondre ou se dire mais le monde est devenu de plus en plus horrible, on peut avoir une attitude qui est positive ou constructive en refusant de se laisser aller à la haine, à la peur, ou même à l'incompréhension, parce que c'est tout à fait inutile aussi. Mais je comprends pas pourquoi. C'est pas ça qui est constructif. Ce qui est constructif, c'est un sens de discerner le bien spirituel au-delà des choses. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile, mais au moins, eh ben, tout d'un coup, on a un pied à l'étrier. On peut faire quelque chose. On n'est plus des, j'éteins la télé parce que c'est trop horrible de toute façon. Alors, juste en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin. Un bon bouquin, vous l'aurez compris, un bouquin qui m'aide beaucoup, qui je pense peut vous aider aussi. Alors, que disent les critiques de ce livre? Alors, les critiques positives. Je réfléchissais à quelles critiques on pouvait donner. Il y a une critique que je trouve intéressante, qui est une critique donnée par Clara Barton, qui est la fondatrice de la Croix-Rouge aux États-Unis. Donc, qui vivait pendant la même période que l'auteur, hein. Et elle dit que ce livre faisait un bien fou au monde entier, à ceux qui le lisaient, et les deux, Mary Baker Eddy et Clara Barton, échangeaient des amabilités parce que de façon différente, bien sûr, mais se voyaient tous les deux sur un chemin juste pour qu'il y ait moins de souffrance, qu'il y ait plus de paix, qu'il y ait amené plus de solutions. Donc ça, c'était un lecteur enthousiaste. Et puis je dirais tout simplement, la meilleure critique, c'est la fin du bouquin, c'est des lecteurs qui ont été aidés par le livre. Et puis vous verrez, il y a toutes sortes de publications de gens là, aujourd'hui, hier, qui ont lu le livre et qui montrent le bien qu'ils en ont tiré. Donc ça, c'est pour la critique qui est positive. Pour les critiques qui sont, j'ai envie de dire, négatives, parce que c'est facile de dire positif, l'inverse c'est négatif. Mais je dirais, c'est pas tellement négatif, c'est ce qui est mal compris. Et quand on comprend mal, c'est comme si je prends un couteau de cuisine, mais j'attrape par la lame. Généralement, c'est pas super utile. C'est mieux de le prendre par la manche. Et donc c'est une question de compréhension. Je dirais la première critique, elle est très simple. Hein, c'est que si je suis absolument convaincu que le monde est moléculaire et n'existe que la molécule, alors le livre va me donner une gifle à chaque page, parce que ça montre autre chose, qu'il y a autre chose que le tout moléculaire. Ça va, à mon sens, contre les recherches scientifiques modernes qui montrent que le tout moléculaire a des limites. Mais donc ça, c'est la première critique en disant, mais comment est-ce qu'on peut parler de la source ou de Dieu? Donc ça, c'est la première critique, mais qui n'est pas propre à ce livre. La deuxième critique que je vois, en train de regrouper un petit peu, c'est peut-être le fait d'admettre que la guérison spirituelle est possible. Je pense que vous avez vu que l'utilisation du sens guérison est très large. C'est toute difficulté auquel on fait face. C'est ça que j'appelle guérison, quand on surmonte une difficulté. Mais si je réduis le propos à la guérison physique, eh bien, pour certains, c'est surprenant qu'on puisse avoir une guérison physique uniquement par des moyens spirituels. Mais je dirais, c'est une question, ça peut changer, c'est une question d'incompréhension et autres. Et je pense qu'effectivement, si on pense que le corps et l'esprit sont totalement déconnectés, qu'il n'y a pas d'impact et autres, alors ça paraît surprenant. Dès qu'on commence à comprendre, ne serait-ce que ce que j'expliquais avec l'effet placebo, le fait que l'impact des pensées sur le corps, tout d'un coup on se dit, peut-être que c'est possible. Mais c'est ça que je vois comme autre critique. Et la dernière chose peut-être que je vois parfois, c'est le fait que le livre peut être dur à comprendre. Et je dirais, et je vais dire une chose, mais c'est pas du tout moqueur. Alors, si vous trouvez que c'est moqueur, je le redirai pas, mais si on s'attend à lire Agatha Christie, oui, c'est compliqué, parce que c'est pas Agatha Christie, c'est pas une nouvelle qu'on lit sur la plage. C'est un vrai livre c'est pas une baguette magique, ce livre. C'est plutôt un bulldozer qui va un petit peu déblayer notre terrain mental. Donc, parfois, ça va avancer vite, et puis on va comprendre plein de trucs. Puis parfois, on va tomber avec notre gros bulldozer, on va tomber sur un gros rocher un peu plus difficile, donc ça prend du temps, ça nous gêne, mais je dirais, la nature de tout livre qui présente les choses d'un angle tout à fait différent, et puis aussi qui emploie des mots qui sont, je dirais, suremployés. Si je prends un mot, par exemple, qui est le mot Christ. Le bouquin utilise le mot Christ, mais ce mot-là, il est employé dans des tas de sens différents. Donc si quand je pense à Christ, je pense à un monsieur crucifié, alors ça peut être embêtant, parce que ce que Jésus explique, c'est que le Christ, c'était son identité spirituelle, c'est notre spiritualité à nous, c'est le fait que quand il dit « je suis le Fils de Dieu », ça veut dire qu'il a un lien à la source, et il montre qu'on a tous un lien à la source. Donc le Christ, c'est notre identité spirituelle, c'est le fait que notre amour, notre tendresse, notre gentillesse ont une source, que cette source, elle n'est pas moléculaire, elle prend sa source dans la vie infinie. Donc le mot Christ a du sens, mais parce qu'il est employé dans la vie de tous les jours, comme le mot prière ou autre, dans de tels sens différents, on peut être amené à lire un passage en disant « mais qu'est-ce que ça dit là, je ne comprends pas du tout ». Mais encore une fois, je pense que si on garde à l'idée que là, ce n'est pas une baguette magique, c'est plutôt un bulldozer, je pense qu'on est à peu près en sécurité. Parce qu'on voit bien qu'un bulldozer, parfois c'est un peu dur, parfois on recule, on avance, donc c'est ça l'idée. Mais je dirais, je n'ai pas de critique de personne qui comprend le livre, ça peut que faire du bien, et je dirais c'est pas une de la philo, donc ça on le lit, ça nous fait du bien, ça nous en fait pas, ça nous fait avancer, donc ça c'est pour les critiques. Et pour finir sur les ressources par rapport à ce livre-là, donc on a ce livre-là qui a été publié pour la première fois en 1875, mais théorème de Pythagore, c'était quand? C'était il y a longtemps aussi, on s'en sert toujours pour construire les ponts, donc l'important c'est que c'est des idées universelles, mais depuis, il y a d'autres choses, il y a un magazine qui s'appelle Le Héros de la science chrétienne, et qui est un magazine génial, parce que c'est pas un magazine écrit par des journalistes ou par des sachants, c'est un magazine écrit par des lecteurs. Et donc les lecteurs envoient leurs articles sur tel sujet, le pardon, la guérison, et puis ça fait le magazine tous les mois en français. Il y a des magazines en anglais également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des biographies de Mary Baker Eddy. Il y a certaines qui sont plus axées sur la guérison, d'autres sur son enfance, sur plein de choses. Donc ça peut être intéressant pour voir d'où est-ce qu'elle sort, cette dame-là. Et que j'oublie rien d'autre. Il y a évidemment, je faisais la liste ce matin de tout ce qui peut être utile avec le livre. Il y a aussi des leçons hebdomadaires thématiques. Ça veut dire que toutes les semaines est publiée une leçon sur un sujet particulier, Dieu, l'homme ou autre chose, avec des passages croisés de sciences et santé et de la Bible qu'on peut étudier pour creuser un sujet toutes les semaines. Donc et la dernière chose, c'est il y a des communautés de lecteurs. Alors je fais exprès de dire des communautés de lecteurs. On appelle ça des églises. Mais les églises, c'est des communautés de lecteurs, il n'y a aucune hiérarchie. C'est vraiment des gens qui lisent le bouquin, qui à un moment disent « j'en ai marre de lire tout seul, j'ai envie de lire avec d'autres ». Et donc, il n'y a pas de hiérarchie, ils sont ensemble, ils se retrouvent le dimanche soit pour lire, il y a une structure de lecture, une structure, pas de hiérarchie, mais une structure, et pour le dimanche, et le mercredi, ils se retrouvent pour partager une petite lecture, et pour partager ce qu'ils apprennent du bouquin, et leur guérison aussi. Donc je crois qu'il y en a à Genève, donc c'est l'église de Genève qui organisait ce talk sur ce livre-là. Mais c'est vraiment l'église dans le sens premier du terme, l'assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, personne ne dit quoi faire, c'est vraiment, si je dis club de lecture, ils ne vont pas aimer, mais parce que c'est plus profond que ça, mais l'idée c'est ça, c'est d'être tous ensemble. Et pour finir, j'ai noté le chiffre I-975. Alors c'est quoi ce chiffre ésotérique? Eh bien, I-975, c'est le petit stand à l'étage où il y a les bouquins qu'on peut consulter, acheter. Donc on m'a dit qu'il était même vendu au prix exceptionnel de 10 francs suisses pendant la... 25. Alors on dit 25 ici, on m'a dit 10. On m'a dit qu'il y avait un prix spécial salon. Donc voilà, il y a un prix spécial salon, donc allez plutôt voir la dame qui est devant à 10 que à 25, pendant le salon et toutes sortes de publications, et donc c'est le stand I-975, c'est allez I, et pour moi, pardon d'avoir un petit peu dépassé, mais j'en ai fini, donc merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Donc moi je serai à l'étage là pendant un petit temps, parce que je vais reparler du bouquin en anglais, à 14h et puis de nouveau à 16h. Mais est-ce que d'ores et déjà, il y a quelqu'un qui a une question? Ce que je voudrais pas, c'est que quelqu'un rentre en disant « mince, je voulais poser cette question-là, j'ai pas pu. » Est-ce qu'il y a une question, une clarification, quelque chose que vous voudriez poser. Il n'y a pas de mauvaise question, parce que si la question vous vient, c'est probable que la moitié de la salle se pose la même question. Donc ce serait vous qui êtes un peu le courageux qui dit « mais je ne comprends pas ce truc-là, ce n'était pas assez clair ». Donc est-ce qu'il y a une question sur quoi que ce soit ? À l'origine, ça a été écrit en anglais, oui. Et en français, c'est traduit, c'est pas la même chose. Et parce que je pense que c'est vraiment scientifique dans le sens, c'est très logique. L'auteur a fait une chose un petit peu particulière, mais je trouve très très bien, c'est que elle était protestante à la base, et donc elle savait les écarts qu'on peut trouver dans la Bible dans l'interprétation. Que Jésus dit un truc, une traduction fait. Et donc ce qu'elle a fait, c'est que elle reste fidèle à la Bible avec la traduction grecque, enfin la Bible originale, il n'y a pas de souci. Mais pour son propre bouquin, les traductions ont été faites en différentes langues, dont le français. Mais il y a toujours l'anglais sur la page de gauche. Donc il y a toujours l'anglais et le français. Du coup, si vous, dans votre étude, vous lisez un truc, vous dites, ça c'est bizarre cette histoire, je ne comprends pas. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil à gauche. C'était pas farfelu, c'était juste parce que les mots ont l'importance, les mots portent des idées, et parfois on peut avoir deux sens par rapport à une idée. C'est vraiment important que cette pratique elle est exacte, et donc les idées soient le plus claires possible. Donc vous trouverez dans le bouquin, c'est pour ça qu'on dirait qu'il est gros, mais en fait il fait la moitié de la taille. Hein. Il y a la moitié en anglais, l'autre moitié en français. Mais c'est vrai que en français on a une traduction que je trouve très bonne et qui a guéri et apporté des tonnes de solutions. Donc on peut améliorer la traduction, mais elle est très bonne à mon avis pour ce qu'on peut en faire. Merci d'avoir posé une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon ? Eh bien, un grand merci, je serai là-haut. Et puis il y a des bouquins déjà qui sont à la sortie, si vous voulez. Merci à vous.